France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Deux jours de monde.
Intervention extra.
Sur les radars, Amélie, ils ont subi la guerre, la fuite, les camps de réfugiés.
Et le calvaire ne s'arrête pas là pour des dizaines de milliers de Syriens installés au Liban voisin. Aujourd'hui, ils sont obligés de détruire eux-mêmes leurs abris de fortune, des maisonnettes construites en dur avec quelques parpaings et des tôles ondulées. Dans les montagnes d'Arsal, une région aride et pauvre à la frontière de la Syrie, ils rasent leur foyer de réfugiés sur ordre des autorités libanaises. Beyrouth craint en effet que les réfugiés ne s'installent de manière permanente. Alors le gouvernement n'autorise désormais que le bois et les bâches en plastique dans les camps de réfugiés. Oum Wadié est une réfugiée syrienne interrogée par l'AFP. Et voilà, elle nous dit, ça fait deux jours qu'on a détruit notre maison. Hier, on a dormi dans la rue, j'ai fait à manger à mes enfants dans la rue, on a dû demander de l'eau aux voisins. Hier, tous n'avaient pas détruit leur logement, mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. On n'a pas assez d'argent pour louer une maison. Voilà ce que nous dit Oum Wadié, une réfugiée syrienne. Le Liban essaie de décourager en fait les réfugiés syriens de s'installer durablement dans le pays, submergé. Le Liban, c'est 4 millions d'habitants et entre 1,5 million et 2 millions de Syriens chassés par la guerre. Et pour beaucoup de politiques et de Libanais, il est temps pour eux de repartir dans leur pays. Mais ces réfugiés n'ont plus rien. Leurs villes, leurs maisons, leurs usines ont été rasées dans les combats et les bombardements depuis plus de 8 ans. Les ONG regrettent aujourd'hui la dernière loi du gouvernement libanais. Elles vont fournir des matériaux et des aides pour de nouvelles tentes.
Une manifestation des défenseurs de l'environnement, ça se passe au Kenya.
Ils étaient environ 200 hier à Nairobi pour protester contre le projet de la première centrale au charbon de toute l'Afrique de l'Est. Le site choisi se trouve tout près de l'archipel de Lamu, dans l'Est du Kenya. Une destination touristique avec une vie marine très riche. Le site est inscrit au patrimoine mondial. Cela fait 6 ans que le projet existe. Le gouvernement y voit des créations d'emplois, une source d'énergie pour le futur. Mais depuis 6 ans, les anti-charbon manifestent, soutenus par de grandes ONG comme Greenpeace. Leur slogan, Decolonize, c'est un jeu de mots, un call, c'est le charbon en anglais, Decolonize, un collectif dont Omar Elmao dirige la campagne.
C'est environ 1 million de dollars de dépenses quotidiennes pour une centrale électrique dont on n'a pas besoin, sans compter son impact sur l'environnement et la pollution qui va suivre.
Voilà, un militant traduit par nos confrères d'Africa News, Decolonize. C'est un jeu de mots à double titre car derrière cette centrale, des financements chinois, la construction réalisée par une société chinoise, on y trouve aussi quelques fonds d'Omane. Un groupe d'experts vient de rendre un rapport intitulé « Le mauvais choix pour le Kenya » car le contrat signé avec tous ces investisseurs va coûter une fortune au pays. Les besoins en énergie du pays seront moins importants que prévu au départ. La centrale sera donc sous-utilisée. Le Tribunal national pour l'environnement doit rendre son jugement sur le futur de cette centrale au charbon dans une dizaine de jours, le 24 juin.
Allez, Amélie, si l'on devait se priver de chocolat?
Imaginez l'enfer, Fabienne. Eh bien, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux, viennent d'annoncer l'arrêt de leur vente. Yves Brahima Kone, le directeur général de la filière en Côte d'Ivoire, explique le pourquoi de cette décision historique en conférence de presse.
Face aux enjeux environnementaux et sociaux, notre responsabilité est aussi d'adresser la problématique du maintien de l'intérêt des producteurs pour la culture du cacao. Vous conviendrez avec nous que celle-ci est étroitement liée à un revenu décent du producteur.
Voilà, le Ghana et la Côte d'Ivoire ne veulent plus vendre leur cacao en dessous de 2 600 $ la tonne. Conséquence sur les marchés, le prix du cacao, eh bien, s'est envolé à Wall Street, mais c'est une hausse très temporaire, prédisent les analystes, qui précisent que pour l'instant, il y a assez de cacao pour répondre à la demande. Le marché mondial du chocolat, c'est un peu vous et moi, Fabienne, c'est environ 100 milliards de dollars par an. Et sur ces 100 milliards de dollars, eh bien, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. Ils réclament donc aujourd'hui un juste prix pour leurs fèves. En Côte d'Ivoire comme au Ghana, le cacao représente environ 10% du PIB. De nouvelles négociations doivent se tenir dans les semaines à venir. On espère quand même qu'on va trouver une solution.
Vous savez, moi, j'aime pas le chocolat.
Enfin, ouais, je sais, vous aimez que la vanille.
Très particulière. Ouais, enfin, ouais, non, mais il faut pas m'embêter avec ça. Allez, revenez quand même demain.